Chapitre 6 Mon cœur souffre au dedans de moi. Jérémie 8, verset 18 Émotion et écrit prophétique. Chantal G. Klingbeil et Gerald A. Klingbeil. Les émotions font partie intégrante de la vie et du mécanisme complexe d'appréhension du monde voulu par Dieu, le Créateur, dont les propres émotions, et notamment son amour défini dans 1 Jean 4, verset 8 Dieu est amour, se reflète sur les êtres humains créés imago Dei, à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 27. La joie, l'enthousiasme, l'anticipation, le plaisir, le ravissement et le bonheur faisaient partie du plan de Dieu dès l'origine, et ces émotions caractérisent notre existence aujourd'hui. Malheureusement, la colère, la tristesse, le chagrin, la crainte, la dépression, le découragement, le malheur et la révolte sont aussi des émotions qui nous sont familières depuis la chute décrite dans Genèse 3. L'étude des émotions dans la Bible est un sujet qui suscite un intérêt croissant mais récent. Il suffit de jeter un rapide coup d'œil aux commentaires et aux introductions générales des différents livres prophétiques pour s'en convaincre. Le contexte historique et culturel, les caractéristiques de langage et les thèmes théologiques spécifiques des livres prophétiques sont au cœur de ces ouvrages, mais on y trouve peu de remarques sur les émotions et la façon dont elles sont exprimées. Paul Kruger dit ceci. Pendant longtemps, les émotions furent considérées comme relevant de la part irrationnelle, incontrôlable et subjective de l'humanité et ne méritaient donc pas d'être étudiées sérieusement. Dans cette étude, nous nous concentrerons sur le champ peu exploré des émotions des prophètes bibliques en faisant appel aux principes de la psychologie interculturelle et des sciences cognitives. Après une brève introduction sur la nature holistique de l'humanité, nous proposerons une définition des émotions et nous réfléchirons à la façon dont elles fonctionnent. Dans cette partie, nous nous appuierons aussi sur les sciences cognitives et la psychologie afin de pouvoir déchiffrer les émotions exprimées dans les textes. Suite à ces considérations méthodologiques importantes, nous résumerons l'approche adventiste de l'inspiration prophétique et nous proposerons un bilan concis des recherches sur les émotions dans la Bible et plus spécifiquement dans les textes prophétiques. Nous étudierons ensuite trois domaines du ministère prophétique dans lesquels les réactions émotionnelles sont importantes, à savoir l'appel, l'implication émotionnelle du prophète lors d'une vision divine, et la réaction du prophète à cette vision. Enfin, nous terminerons en présentant un certain nombre de conclusions provisoires qui pourraient donner lieu à d'autres études. La nature holistique de l'humanité. L'anthropologie biblique est le sujet de nombreuses études. Dans ce chapitre, nous évoquerons uniquement l'approche biblique de la nature holistique des êtres humains telle qu'elle apparaît dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On oppose le dualisme au monisme biblique, à savoir la position selon laquelle toutes les expressions de la vie intérieure dépendent de la nature humaine qui forment un tout, y compris le système biologique. Les différentes composantes de l'être humain ne font qu'un. L'esprit ou l'âme ne sont pas séparés et n'ont pas d'existence consciente en dehors du corps. En tant qu'êtres humains, nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, versets 26-27. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, nous pouvons supposer que nos émotions reflètent d'une certaine façon les émotions de Dieu, même si les nôtres sont sujettes au péché, alors que ce n'est pas le cas des siennes. Nous ne croyons pas à la dualité des êtres humains et à la séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Au contraire, nous développons une vision holistique de l'être humain dans laquelle les émotions font partie intégrante de l'existence. Il est important de souligner ceci. Les prophètes étaient. Définition des émotions. Comment fonctionnent-elles? Les émotions étant intrinsèquement liées à notre être intérieur, il est souvent difficile de les définir de façon adéquate. Pour compliquer encore un peu les choses, les émotions sont associées au mode d'expression ainsi qu'à l'expérience. En d'autres termes, nous vivons des émotions et nous exprimons des émotions. Nous les communiquons par des expressions faciales, linguistiques, verbales, physiques et écrites. le champ des sciences cognitives a beaucoup progressé ces derniers temps avec les avancées informatiques et technologiques. Ces sciences doivent être prises en compte dans l'étude des processus neurologiques et linguistiques impliqués dans l'expression des émotions humaines. Les spécialistes en sciences cognitives cherchent aujourd'hui à développer des logiciels et des outils informatiques capables de réagir aux émotions et de les déchiffrer dans des textes écrits. Dans le cadre de cette étude, nous avons fait la distinction entre deux écoles principales concernant l'approche des formes d'expression émotionnelle. L'une de ces deux écoles, essentiellement basée sur la psychologie culturelle, affirme qu'il existe certes certaines émotions fondamentales comme la colère, la peur, la joie, le dégoût et le découragement, mais que l'expression des émotions est avant tout culturelle. En d'autres termes, l'expression d'une émotion particulière est différente en Asie ou en Afrique du Nord, par exemple. L'autre école, liée aux sciences cognitives, affirme que les émotions sont universelles et qu'elles appartiennent à l'unité psychique de l'humanité. Chacune de ces deux écoles cite différentes études pour justifier sa théorie. Par exemple, dans une étude abordant la colère, des chercheurs ont mis en évidence une organisation conceptuelle cohérente qui sous-tend sa manifestation avec un modèle culturel commun des effets psychologiques de la colère qui ne doit pas être considéré comme étant arbitraire, mais plutôt motivé par des raisons psychologiques. Par exemple, même s'il existe des variations de langage pour en exprimer certains aspects, l'organisation conceptuelle exprimant la colère semble similaire en anglais américain et en hébreu biblique. Dans cette étude, nous adopterons la position de Krüger selon laquelle la réponse se situe probablement au milieu. Étant donné la complexité de la tâche consistant à définir une émotion, il est certainement plus utile d'étudier la façon dont les émotions fonctionnent. Scherer propose une excellente définition des émotions et de la façon dont elles fonctionnent. Il affirme qu'une émotion est « un épisode de changement interdépendant et synchronisé » dans l'état de tous ou de la plupart des cinq sous-systèmes organismiques en réponse à un stimulus externe ou interne lié à des préoccupations majeures de l'organisme. Il convient de souligner que, normalement, les émotions sont déclenchées par des événements. Autrement dit, quelque chose se passe et déclenche une émotion chez une personne. Parfois, une autre émotion est générée ou amplifiée par notre évaluation ultérieure de cet événement. Elizabeth Phelps, psychologue à l'Université de New York, nous rappelle le lien étroit qui existe entre l'esprit et les émotions. Les émotions sont suscitées par des pensées et des souvenirs qui agissent sur l'esprit et confortent ou inhibent certains processus mentaux. Il est même possible de provoquer une émotion par des représentations imaginaires. D'une certaine façon, les émotions servent de détecteurs. En général, nous éprouvons des émotions au sujet de personnes et de choses auxquelles nous tenons. Il semblerait que les émotions aient aussi une influence importante sur le comportement, qu'elles puissent l'interrompre et permettre de définir de nouveaux objectifs et de nouveaux plans. Les émotions ont un impact sur la communication et l'interaction sociale. Les expressions du visage, bien que souvent involontaires, suscitent une réaction chez la personne avec laquelle nous conversons. Des changements subtils dans les expressions non verbales peuvent indiquer un désaccord en fonction des expressions verbales et du mode de communication. Étant donné le langage que nous employons habituellement, il est important de faire la distinction entre l'humeur et l'émotion. De façon générale, les émotions sont considérées comme des réactions intenses à des événements, alors que les humeurs sont caractérisé par une prédominance relativement durable de certains types de sentiments subjectifs qui affectent l'expérience et le comportement d'une personne. Il est souvent difficile d'identifier ce qui explique une humeur particulière. Bien souvent, c'est un ensemble de facteurs physiologiques et environnementaux qui expliquent les humeurs. Enfin, une émotion est plus qu'un sentiment. Les émotions semblent difficiles à définir, mais elles font une différence réelle dans le système nerveux central. Étant donné le lien étroit qui existe entre l'esprit et les émotions, nous allons maintenant étudier le lien entre les émotions et le concept important de l'inspiration. Les émotions et la question de l'inspiration et de la révélation. La compréhension des adventistes du septième jour de la notion d'inspiration est basée sur des éléments bibliques montrant que Dieu se révèle d'une façon particulière à certaines personnes qui, à leur tour, transmettent les messages divins à d'autres. 1 Samuel 3, versets 21 à 4, verset 1. Ésaïe 22, verset 14. Joël 3, versets 1, 2 ou 2, versets 28, 29. Matthieu 11, verset 27. Éphésiens 3, verset 3, 4. 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Le processus d'autorévélation divine comprend une grande variété d'expériences relatives à la révélation, comme les visions, les rêves, la communication verbale et les présentations générales concernant le passé, le présent et le futur. De la même façon, selon Peter Van Bemmelen, de nombreux éléments bibliques montrent que certaines personnes choisies par Dieu sont l'objet d'une action particulière du Saint-Esprit. Nous croyons que les auteurs bibliques étaient inspirés. 2 Pierre 1, versets 20-21, 2 Timothée 3, versets 16-17. Et par conséquent, les prophètes occupent une place centrale dans le processus de révélation et d'inspiration. L'inspiration ne concerne pas les mots ou les expressions du prophète, mais l'homme lui-même, qui, sous l'influence du Saint-Esprit, est imprégné de ses pensées. Mais les mots sont ceux de l'esprit humain. L'esprit et la volonté de Dieu s'associent à l'esprit et à la volonté de l'homme. Ellen White elle-même affirmait que le prophète présente ce qui s'impose à lui sous la direction du Saint-Esprit. En raison du lien étroit qui existe entre l'esprit et les émotions d'un prophète jouent un rôle important dans le processus d'inspiration. Les prophètes ne sont pas des intermédiaires passifs de la voix prophétique. Ils sont impliqués émotionnellement dans l'appel qui leur est adressé et ils vivent toute la palette des émotions humaines. Dans la partie suivante, nous présenterons les ressources traitant de la question des émotions dans la Bible et nous étudierons ce que dit la Bible concernant les trois étapes cruciales du ministère prophétique, à savoir la réponse à l'appel divin, l'implication émotionnelle du prophète dans la proclamation du message divin et la réaction des êtres humains à ce message. La réaction émotionnelle du prophète. Nous avons déjà souligné le fait que l'étude des émotions dans les textes bibliques est un domaine nouveau. Dans cette partie, nous présenterons brièvement ce que disent les théologiens concernant ce sujet qui suscite un intérêt croissant. L'ouvrage de Gary Anderson, A Time to Mourn, A Time to Dance, 1991, est une publication majeure, même s'il s'intéresse essentiellement aux expressions de joie et de tristesse dans la religion ou l'adoration israélite. Notre approche des réactions émotionnelles dans la Bible hébraïque est beaucoup plus spécifique. Des recherches ultérieures se sont intéressées à des données comparatives du Proche-Orient ancien, comme nous pouvons le constater dans l'étude de Fox sur le fait de frapper dans les mains pour exprimer la colère et l'angoisse en Mésopotamie et en Israël. En 1998, Mark Smith publia une étude sur le cœur et les entrailles dans les formes d'expression des Israélites, se basant sur des recherches anthropologiques et psychologiques. Les recherches de Smith abordent surtout la sémantique et les métaphores plus que les émotions exprimées dans un texte. Cependant, sa conclusion est particulièrement intéressante. Les émotions ne font pas partie d'un monde intérieur des sentiments qui serait indépendant du processus de communication extérieure pour autrui. Au contraire, les émotions jouent un rôle important dans le domaine de la communication et peuvent préparer l'individu à agir. Mais c'est Paul Kruger, de l'université Stellenbosch en Afrique du Sud, qui a surtout contribué à enrichir le débat sur les émotions dans l'Ancien Testament. En 2000, Paul Kruger publia un certain nombre d'études sur la colère, la dépression et la peur dans l'Ancien Testament. Son intérêt particulier pour la linguistique cognitive explique l'approche qu'il adopte et rappelle aux lecteurs et aux spécialistes que les textes sont le reflet de réalités culturelles et cognitives. Certains de ses étudiants ont également publié des études sur la linguistique cognitive et les émotions, comme Kotze et Basson. Kotze déplore à juste titre le manque relatif de ressources concernant la colère dans l'Ancien Testament, en dehors de la question importante d'un point de vue théologique de la colère divine. Plus récemment, Thomas Kazen a pris en considération la biologie, les neurosciences et la psychologie comportementale en étudiant les processus physiologiques et neurologiques qui sous-tendent les émotions dans la loi biblique et ce dans son contexte culturel. Comme le souligne Hundley, le fait que Kazen ne fasse pas la distinction entre l'origine et la rhétorique, entre les émotions qui contribuent à produire une loi et les émotions utilisées pour en faire la promotion, est un problème non négligeable, cette question nécessitant d'être approfondie. Au cours des 10 dernières années environ, un certain nombre d'études et de thèses abordant la question des émotions dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament ont été publiées. Beaucoup de ces études abordent la notion de la colère divine ou humaine. Dans sa thèse, Dina Grant, de l'Université de New York, étudie la colère biblique dans la littérature biblique, ainsi que la question de Hérem, le guerrier divin, et la guerre. La thèse de Grushkin, qui vient de la même université, étudie l'impact des émotions sur le corps humain, tel que cela apparaît dans l'Ancien Testament, et aborde notamment la relation entre les différentes parties du corps et la physiologie des émotions. La thèse de David Finney, publiée en 2004 à Yale, s'intéresse plus particulièrement au prophète Ézéchiel, mettant en évidence un certain nombre de stratégies utilisées dans la Bible hébraïque pour communiquer les émotions. Enfin, l'ouvrage le plus récent sur ce sujet est celui d'Angela Thomas, qui compare les idiomes anatomiques et l'expression des émotions dans le texte massorétique de l'Ancien Testament et sa traduction en grec de la Septante. Angela Thomas s'intéresse notamment à la linguistique comparative, à savoir la traduction d'un langage idiomatique, ou émotif, dans une autre langue dont la syntaxe et la grammaire sont très différentes de la langue d'origine. Après cette présentation des différentes publications sur le sujet des émotions, intéressons-nous maintenant à l'expression des émotions dans la Bible. L'expression des émotions dans la Bible. Bien que la Bible n'aborde pas directement la question des pensées et des émotions des prophètes, différentes méthodes sont utilisées pour les décrire. Comme l'a souligné Finney, la plupart des livres prophétiques emploient à la fois la troisième personne et la voix directe du prophète pour exprimer ses réactions personnelles, et parfois ses émotions. L'un des façons les plus courantes d'exprimer des émotions dans le texte biblique, et notamment dans l'Ancien Testament, et de parler de ces émotions en employant un langage corporel. Dans le langage courant, les émotions sont souvent décrites avec des expressions évoquant différentes parties du corps. Nous disons que nous avons le souffle coupé quand nous apprenons une mauvaise nouvelle, par exemple. Kruger a identifié 19 changements physiologiques indiquant la peur dans la Bible hébraïque. Cette liste comprend l'agitation physique avec des tremblements, Exode 19, verset 16, 15, verset 15, Agé 2, verset 7, Exode 19, verset 18, et des frémissements, Habacuc 3, verset 16, un cœur agité, Psaume 38, verset 10, 11, des visages pâlissants, Nahum 2, verset 10, 11, kibessou parure en hébreu, qui signifie littéralement « devenir pâle », des poils du corps qui se hérissent, Job 4, verset 14, 15, une incapacité à bouger, Exode 15, verset 16, une incapacité à respirer, Daniel 10, verset 17, etc. De la même façon, Kruger liste toutes les expressions métaphoriques concernant la colère, y compris l'image du corps contenant la colère, Ésaïe 30, verset 27, Ézéchiel 38, verset 18, une colère croissante produisant de la fumée, 2 Samuel 22, verset 9, Job 4, verset 9, une colère semblable à un feu, Ésaïe 30, verset 27, Jérémie 4, verset 4, etc. Ou une colère comparable à un ennemi, Psaume 69, verset 24 à 26. Ou à un animal dangereux, Ézéchiel 43, verset 8. L'émotion positive de la joie est souvent associée à l'image du chant et de la proclamation. De plus, la joie est visible. La joie rend le visage heureux, Proverbe 15, verset 13, et éclaire les yeux, verset 30. La joie se traduit aussi par une bouche pleine de rire, Job 8, verset 21, Psaume 126, verset 2. Après ces remarques générales sur les émotions, nous prendrons quelques exemples de la façon dont les prophètes réagirent émotionnellement à l'appel et au message divin, et de la façon dont l'implication émotionnelle des prophètes affectait leur message. Réaction émotionnelle à l'appel prophétique. Quand nous étudions les récits d'appels prophétiques dans l'Écriture, il est surprenant de constater que, généralement, la première réaction des prophètes était négative. En effet, ils se sentaient indignes, peu préparés ou simplement effrayés. Ésaïe emploie l'expression « Oïli, malheur à moi » pour évoquer sa réaction quand il vit Dieu en vision, des termes exprimant une forte émotion négative. Étonnamment, le préfixe « oï » est généralement employé lors de lamentation ou de deuil. 1 Samuel 4, versets 7, 8. Manifestement, Ésaïe anticipe ses propres funérailles en voyant l'apparence glorieuse de Dieu. Cependant, un ange toucha les lèvres d'Ésaïe avec un charbon ardent de l'autel. Ésaïe 6, verset 6. Et il sembla alors s'animer. Il est d'ailleurs le seul prophète de l'Écriture à se proposer pour cette mission. Il déclara « Je suis là, envoie-moi » verset 8. On observe des points communs avec l'appel de Jérémie, Jérémie 1, versets 4 à 10. Le texte hébreu comporte une forme similaire dans un autre passage de l'Ancien Testament pour exprimer la terreur. Manifestement, Jérémie a le sentiment de ne pas être à la hauteur de la tâche en raison de son inexpérience et de sa jeunesse, verset 6. Dans un monde où l'âge détermine l'importance, la réaction de Jérémie est légitime et compréhensible. Dieu touche alors sa bouche, ce qui fait écho à l'expérience d'Ésaïe, et le prophète a ensuite une vision dans laquelle il voit un amandier et une marmite bouillante. Cependant, contrairement à Ésaïe, il semble toujours avoir peur, mais davantage à l'idée de transmettre le message plutôt que de Dieu, comme on peut le voir dans les demandes et les avertissements de Jérémie 1, versets 17 à 19. L'appel d'Ézéchiel est caractérisé par de nombreuses émotions négatives. Le prophète tomba face contre terre après avoir eu une vision de Dieu, Ézéchiel 1, verset 28. Celui-ci lui redonna la force dont il avait besoin, et il fit alors une description peu flatteuse de la mission qui l'attendait. Il lui recommanda de ne pas être rebelle, Ézéchiel 2, verset 8. Le texte biblique souligne qu'Ézéchiel fut irrité et furieux après la vision, Ézéchiel 3, verset 14. Aucune explication précise n'est donnée pour justifier cette réaction. Peut-être Ézéchiel se sentit-il écrasé par le poids des responsabilités, comme Jérémie ou Ésaïe. Cooper pense que la réaction du prophète fut peut-être due à l'attitude négative de son entourage, ce qui avait d'ailleurs été annoncé par Dieu. Ézéchiel 2, versets 5 à 8, 3, versets 6 à 11. L'impact émotionnel de la vision fut si grand qu'Ézéchiel resta prostré pendant 7 jours. Il était bouleversé et manifestement trop effrayé pour partager cette vision. Ézéchiel 3, verset 15, comme l'indique l'avertissement que Dieu lui adressa, lui disant qu'il serait tenu pour responsable du sang de ceux qu'il ne préviendrait pas, versets 16 à 21. Il faut également mentionner Moïse, le précurseur des prophètes, Deutéronome 18, verset 15, dans l'Ancien Testament. Lui aussi fut envahi d'émotions négatives lorsqu'il fut appelé à porter le message de Dieu à Pharaon. En entendant la voix de Dieu près du buisson ardent, Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Exode 3, verset 6. Après avoir reçu l'appel de Dieu, la crainte de Moïse sembla évoluer. Au lieu d'avoir peur de Dieu qui l'appelait, il se mit à craindre la façon dont le message serait reçu en Égypte. Moïse invoqua alors une série d'excuses auxquelles Dieu apporta patiemment des réponses dans le but de dissiper la peur de Moïse. « Je serai avec toi, lui dit-il. » Exode 3, verset 12. « Je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Exode 4, verset 12. Les émotions de Moïse étaient exacerbées, comme le montre son désir de fuir quand son bâton se transforma en serpent et en cygne, verset 3. Enfin, Moïse fut à court d'arguments, mais il était encore trop effrayé pour répondre à l'appel de Dieu. Les dernières paroles qu'il prononça lors de cet échange furent « Pardon, Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre, qui tu voudras », verset 13. On a l'impression que Dieu, ne parvenant pas à convaincre Moïse de surmonter sa peur, il le poussa à choisir entre deux craintes. Le texte d'Exode 4, verset 14, dit littéralement « Le nez de YHWH devint chaud », qui est traduit par « Le Seigneur se mit en colère contre Moïse ». Certains traducteurs insistent même davantage « La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse ». Cela semble avoir été le coup de pouce émotionnel dont Moïse avait besoin pour commencer son voyage de retour en Égypte et son ministère pour le Seigneur. Implication émotionnelle dans la vision divine. Les visions n'étaient pas des expériences aisées pour les prophètes bibliques. Non seulement ils découvraient les événements, les lieux et les enseignements divins, mais ils étaient aussi souvent actifs et ils s'impliquaient émotionnellement dans les scènes qui leur étaient décrites. Ézéchiel et Jean reçurent l'ordre de manger des livres durant leur vision. Ézéchiel 2, verset 9 à 3, verset 3. Apocalypse 10, verset 9. Jean eut pour mission de s'impliquer en prenant des mesures avec un roseau. Apocalypse 11, verset 1. De plus, les prophètes participaient souvent aux visions en posant des questions ou en étant eux-mêmes questionnés. Voir par exemple Amos 8, verset 2, Zacharie 1 à 6, Habacuc. Les prophètes éprouvaient toutes sortes d'émotions pendant les visions. Quand ils apercevaient la gloire de Dieu, ils éprouvaient souvent un sentiment de peur et de grand respect. Après avoir vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Apocalypse 1, verset 13, Jean tomba à ses pieds, comme mort, verset 17. Daniel vécut une expérience similaire, Daniel 8 et 10, ce qui nous permet de faire un lien entre l'autorité prophétique de l'Ancien Testament et la dimension prophétique et eschatologique du Nouveau Testament. Dans sa vision, Daniel vit un bélier et un bouc, et il était en train d'essayer de donner du sens à tout cela quand Gabriel s'approcha pour lui expliquer la vision. Daniel déclare qu'il fut rempli d'effroi et qu'il tomba face contre terre. Daniel 8, verset 17. Cependant, la peur n'est pas la seule émotion vécue par les prophètes lors d'une vision. Nous pouvons citer l'exemple de Jean qui s'impliqua tant dans la vision du livre scellé et des sept sceaux qu'il pleura beaucoup. Apocalypse 5, verset 4. Parce que personne n'avait été trouvé digne de l'ouvrir. Le sens du verbe employé est accentué avec l'adverbe « beaucoup ». Jean n'éprouva pas uniquement des émotions négatives lors de ses visions, comme nous le montre sa réaction en découvrant la femme ivre du sang des saints, Apocalypse 17. Quand il la vit, il fut frappé d'un grand étonnement, verset 6. La traduction littérale du texte grec pourrait être « je m'étonnais d'un grand étonnement ». Une grande surprise est exprimée ici. Les traducteurs et les théologiens peinent à comprendre cette phrase, car cette émotion peut exprimer un sens positif. Le même terme grec est employé dans Apocalypse 13, verset 3, pour décrire l'étonnement ou l'émerveillement du monde en observant la guérison miraculeuse de la bête suite à sa blessure fatale. Dans Apocalypse 13, verset 3, cet étonnement transforme les observateurs en disciples. L'émotion de Jean, exprimée dans Apocalypse 17, verset 6, fut certainement manifeste, car l'ange se sentit poussé à lui poser une question au verset 7. Le texte de Zacharie 3 nous donne un autre exemple de réaction empreinte d'émotion. Lors de la vision de Josué le grand prêtre, Zacharie s'enthousiasma au point de participer activement à la vision. Après avoir été témoin de l'échange entre l'ange du Seigneur et Satan au sujet de Josué, il constata que les vêtements sales de Josué étaient remplacés par des vêtements propres. Alors Zacharie s'engagea totalement, il s'oublia lui-même et participa en demandant qu'un turban propre lui soit apporté. Zacharie 3, verset 5. D'observateur, il devint participant. Comme le soulignent C. Meyers et E. Meyers, l'emploi de la première personne à ce moment précis de la vision est inattendu et, pour la plupart des commentateurs, évoque l'intervention impulsive du prophète dans le texte. Les traducteurs ont peiné à traduire ce passage, soit en omettant « litre de zointe », la première personne, soit en utilisant la troisième personne, « vulgate » et « peshitta ». Réaction émotionnelle lors de la réception d'un message divin et de sa proclamation. Après avoir transmis un message, les prophètes ressentaient souvent diverses émotions. Parfois, ils étaient frustrés ou même en colère quand ils constataient que le message de Dieu était accueilli avec indifférence ou hostilité. 1er Rois 18, versets 21, 22, 22, versets 28. 2e Rois 13, versets 19. L'histoire de Jonas est intéressante de ce point de vue. Ce livre semble être le récit d'un prophète refusant de partager les émotions de Dieu. Le premier chapitre nous donne peu d'indications sur l'état émotionnel de Jonas, si ce n'est que, de façon étonnante, la forme verbale « yarad » est répétée. « Il descendit » Jonas 1, verset 3, 5 et 2, verset 7. Ce verbe semble associé un état à un lieu et pourrait être décrit comme une fuite verticale, comme le souligne Camp. Nous en concluons que Jonas n'accepta pas son appel, comme le souligne le fait qu'il fuit dans la direction opposée de celle où il était invité à se rendre. Le premier chapitre est caractérisé par l'absence notoire de remarques sur d'éventuelles émotions de Jonas. Le fait que les marins eurent peur, Jonas 1, verset 5, et même très peur, verset 10, et furent saisis d'une grande crainte du Seigneur, verset 16, contraste grandement avec l'attitude de Jonas qui semble vide du point de vue émotionnel. Aux questions pressantes des marins terrifiés, il déclara avec force qu'il fallait le jeter dans la mer agitée. Son absence d'émotion frôle l'apathie et contraste vivement avec les efforts désespérés des marins pour ramer afin de gagner la terre ferme, verset 13, et éviter ainsi de sacrifier un être humain et d'éprouver un sentiment de culpabilité. Quand l'équipage comprit que tout effort était vain, il implora le pardon de Dieu, verset 16, alors que Jonas resta silencieux. Il semblait ne rien éprouver, alors qu'il était pourtant confronté à la mort. Jonas commença seulement à avoir des émotions durant sa prière, lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Il évoqua alors sa détresse ou son affliction. Après son sauvetage épique, il fut prêt à exprimer et transmettre certaines émotions, à savoir la colère de Dieu, Jonas 3, verset 4, mais il n'était pas prêt à se ranger du côté de Dieu. Le fait que Dieu éprouve de la compassion pour la ville et renonce à son projet suscita une surprenante réaction émotionnelle chez Jonas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha, Jonas 4, verset 1. Jonas expliqua alors pour quelle raison il avait fui à Tarsis, en réaction à la compassion et à l'amour de Dieu. Le lecteur s'attend pourtant à ce qu'un prophète soit heureux quand un message de Dieu est accepté. Mais le texte nous dit que Jonas éprouva une grande joie, uniquement lorsqu'un ricin poussa au-dessus de lui. Quand le ricin se dessécha, il exprima alors une émotion extrême, au point de demander la mort. Le livre de Jonas se termine avec l'appel de Dieu adressé à Jonas, l'invitant à partager sa pitié pour les habitants et même les animaux de Ninive. Parfois, les prophètes luttaient pour donner du sens à ce qu'ils avaient vu en vision. Il leur arrivait d'être si angoissés qu'ils en tombaient malades physiquement. Après la vision des 2300 soirs et matins, Daniel 8, verset 26, Daniel fut malade pendant plusieurs jours. Daniel était atterré par la vision parce qu'il ne la comprenait pas. Les prophètes avaient des émotions intenses lors des visions. En fait, durant ces visions, ils prenaient conscience de certains péchés, et ils avaient une réaction négative vis-à-vis du péché, parfois même longtemps après les visions. Le prophète Jérémie, par exemple, fut sensibilisé à plusieurs reprises au sujet du danger et des conséquences de l'idolâtrie. Jérémie 44 contient un message pour le reste qui avait fui en Égypte, contrairement à ce que Dieu avait demandé. Le message divin rappela une fois encore la désapprobation de Dieu pour l'idolâtrie et ses conséquences, désolation, exil et calamité. Jérémie, qui était alors conscient de la gravité de ce péché, reprocha aux femmes de rendre un culte à la reine du ciel en brûlant de l'encens et en répandant des libations. Jérémie 44, versets 20 à 30. Il arrivait souvent qu'en raison des messages qu'ils proclamaient, les prophètes s'attirent les foudres de la population. Beaucoup d'entre eux craignaient pour leur vie. Comme nombre de prophètes qui l'avaient précédé, Jérémie n'était pas populaire en raison de ses prophéties. Dans Jérémie 11, versets 18 à 23, Dieu lui-même révèle un complot contre le prophète, peut-être même préparé par la famille de Jérémie dans sa ville. La désillusion, la frustration et les interrogations caractérisent la réaction de Jérémie à cette crise émotionnelle et existentielle. Il est intéressant de noter que la lamentation poétique de Jérémie 11, verset 20, utilise le langage du corps, dont les reins, mot traduit par « esprit » dans la version King James, et le cœur. L'histoire d'Élie est caractérisée par un grand nombre d'émotions variées, les siennes ainsi que celles des dirigeants et de la population. Suite à la manifestation de la souveraineté et de la puissance de Dieu au mont Carmel, 1er roi 18, Élie éprouva tout d'abord un sentiment de triomphe et de victoire sur les prophètes de Baal, puis un sentiment de terreur en raison des menaces de Jézabel, 1er roi 19, verset 2-3. Il s'enfuit alors et tomba dans la dépression, aspirant même à mourir. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit, maintenant Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 4. Dieu fit preuve de patience et prit en considération l'état de fragilité émotionnelle de son messager, ce qui souligne sa capacité à comprendre la souffrance émotionnelle et son désir de veiller sur ses serviteurs lorsqu'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort. Les prophètes prédisaient souvent des désastres et le châtiment des péchés. Ces déclarations étaient généralement reçues avec indifférence par le peuple, mais les prophètes souffraient des conséquences de la désobéissance et étaient conscients de ce qui allait alors se produire. Jérémie fait une description poignante dans Jérémie 4, verset 19. « mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur. Mon cœur frémit, je ne peux pas garder le silence, car j'entends le son de la trompe, les acclamations de la guerre. » Comme le souligne Huy, la souffrance qu'il, Jérémie, ressentit en annonçant la destruction de Jérusalem est révélée par cette exclamation « Mon tourment, mon tourment !» Dans son esprit, Jérémie pouvait déjà entendre le son des trompettes de l'ennemi qui approchait et se préparait à donner l'assaut contre sa ville bien-aimée. La pensée de cette catastrophe lui fendait le cœur. On trouve un verset similaire et riche en expressions relatives au corps et parlant d'émotion dans Habacuc 3, verset 16. Dans sa prière, qui est le prolongement de son échange avec Dieu, Habacuc exprime sa terreur à l'idée du châtiment de Juda. Ses paroles contiennent de nombreuses expressions métaphoriques décrivant la peur. « J'ai entendu, et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres balbutient, mes os pourrissent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse où notre assaillant attaquera le peuple. » Habacuc 3, verset 16. Comme le souligne Palmer Robertson, les paroles du prophète concernant l'effet que le message de Dieu eut sur lui ne doivent pas être considérées uniquement comme une figure de style. Il décrit une véritable expérience physique qu'il vécut alors qu'il prenait la mesure de la signification de la vision. Son plexus solaire se serra. Ses faibles efforts pour poursuivre le dialogue avec le Tout-Puissant firent frémir ses lèvres. Il eut le sentiment que ses os pourrissaient. Ses jambes se mirent à trembler. La déclaration de foi d'Habacuc est d'autant plus frappante. En effet, il déclara « Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. » Verset 18. En guise de conclusion, cet aperçu de l'implication émotionnelle des prophètes dans leur ministère montre qu'ils n'étaient pas de simples intermédiaires appelés à transmettre les paroles de Dieu. Les émotions faisaient partie intégrante de leur expérience, notamment lors des visions, ainsi que du processus d'inspiration. Les principes définis par les sciences cognitives et la psychologie peuvent nous aider à comprendre de quelle façon les émotions contribuent à l'expérience prophétique. Les émotions sont généralement suscitées par des événements, et le fait de découvrir les messages de Dieu lors de visions générait donc des émotions chez les prophètes pendant et après ces visions. Ces émotions étaient ravivées chaque fois qu'ils se les remémoraient ou les racontaient. Elles avaient en réalité une fonction mnémotechnique qui contribuait à préserver leurs souvenirs dans l'esprit du prophète et du peuple. Les émotions servent de détecteurs de pertinence. Ainsi, les expressions mettant l'accent sur les émotions dans les livres prophétiques peuvent servir à souligner certains thèmes ou certaines parties des visions. La réaction de Daniel lors de la prophétie des 2300 soirs et matins permet d'en souligner l'importance et la tension croissante, et met l'accent sur l'explication qui en est donnée ensuite. Voir Daniel 8, verset 27. Lorsque les êtres humains éprouvent des émotions fortes, ils se souviennent de détails qu'ils auraient pu oublier. Par exemple, beaucoup de gens se souviennent de l'endroit où ils se trouvaient et de ce qu'ils faisaient lors des attaques du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles de New York. Les émotions permettaient donc aux prophètes de se concentrer, d'organiser leurs récits et de se remémorer les détails de leur vision. C'est certainement la raison pour laquelle les passages prophétiques décrivant Dieu, le ciel ou les êtres célestes emploient souvent un langage varié et fort. Les livres prophétiques montrent que les émotions ont un impact sur le comportement, peuvent le modifier et peuvent aussi encourager ceux qui les éprouvent à changer de plan et d'objectif. Le but de nombreux messages prophétiques était de faire comprendre au peuple la gravité du péché et de ses conséquences sur le plan du comportement, et de l'inciter à changer. Il s'agit donc du concept biblique de repentance ou de changement de direction, comme en témoigne le choix du langage employé dans tous les écrits prophétiques afin de faire réagir, d'attirer l'attention et de susciter une émotion. Le processus prophétique souligne le fait que Dieu n'a pas seulement des pensées et des plans, mais aussi des sentiments. Les émotions de Dieu sont différentes des émotions humaines parce qu'elles sont fiables et qu'elles sont propres à sa nature qui est caractérisée par l'amour. 1 Jean 4, verset 16. Les émotions suscitées par les visions doivent inciter chacun à poser des questions à Dieu et à lui demander des réponses. Les prophètes ne parlent pas uniquement de la part de Dieu, mais ils expriment également les émotions de leur auditoire. Dans un certain sens, les prophètes sont appelés à incarner les réactions émotionnelles à la fois du peuple et du Seigneur, et à utiliser ces émotions pour transmettre au mieux le message de Dieu. La mission des prophètes consiste notamment à voir le monde comme Dieu le voit et à ressentir certaines de ses émotions en observant le comportement des hommes. Les prophètes doivent transmettre ses paroles, mais également ses émotions.